À l'époque, aujourd'hui lointaine, où j'étais au cours élémentaire, on devait se coltiner une récitation par semaine. C'est comme ça que j'ai appris quelques fables de La Fontaine et surtout les morales des histoires comme « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, le lion et le rat ». Cette maxime, qui se vérifie dans la vie quotidienne, est aussi enseignée plusieurs fois dans les Écritures. Proverbe 14-29, 15-18, 16-22, 19-11 et 25-15. Parmi les attributs de Dieu, il est compatissant, miséricordieux, riche en bonté et surtout lent à se mettre en colère. Heureusement pour nous. Cependant, sa patience cesse au moment où l'homme endurcit son cœur, ce qui est l'erreur irréparable qu'ont commis tant d'hommes comme le Pharaon, qui eut maille à partir avec Moïse, ou Ahaz, roi de Juda. Non seulement cet homme est un idolâtre ignoble, mais en plus, il offense l'Éternel en refusant l'offre de délivrance qu'il lui a faite. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'ils vous faillent encore ? Lassez aussi mon Dieu. » Ésaïe 7, verset 13. Ésaïe parle de l'Éternel en l'appelant « mon Dieu ». Parce qu'il est son seul représentant, vu que la royauté et la prêtrise sont devenus les supports d'une idolâtrie grotesque. Il est difficile d'user de patience de Dieu, mais quand elle arrive à son terme, il se fâche et exerce sa justice par un jugement aussi tranchant que la guillotine. En attendant que le châtiment tombe sur le royaume de Juda, ce qui n'aura pas lieu avant un siècle et demi, Ésaïe donne au roi Ahaz une prophétie qui concerne la lignée de la dynastie de David. Je continue. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, et l'enfantera un fils, et lui donnera pour nom Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Les participes hébreux, sera enceinte et enfantera, sont indéterminés dans le temps. Ils ne font pas de distinction entre le présent et le futur. Comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament, les prophéties ont une application immédiate et une autre éloignée dans le temps. Le mot hébreu « alma », traduit par « jeune fille », désigne une femme en âge d'être mariée, mais qui ne l'est pas avec les sous-entendus qu'elle n'a encore jamais eu de relation sexuelle. On trouve ce mot dans 6 autres passages de l'Ancien Testament. Il décrit Rebecca au moment où Eliezer, le serviteur d'Abraham, la demande en mariage pour Isaac. Genèse 24, verset 43. Or, le passage précise, la jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Genèse 24, verset 16. Alma est aussi appliquée à la sœur de Moïse. Exode 2, verset 8. À des jeunes filles jouant d'un instrument de musique pour célébrer l'Éternel. Psaume 68, verset 26. À des jeunes filles présentes à une fête. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 3. Aux jeunes filles au service des femmes des guerriers qui forment l'escorte rapprochée de Salomon, Cantique des Cantiques 6-8. Et à une jeune fille à qui un homme fait la cour, Proverbe 30, verset 19. La Septante, l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament, traduit toujours Alma par Vierge. L'application immédiate de cette prophétie concerne probablement une jeune femme qu'Ésaïe et le roi Ahaz connaissent. Elle est sur le point de se marier, tombera tout de suite enceinte et donnera naissance à un fils qu'elle appellera Emmanuel et qui est une translittération du mot hébreu qui veut dire « Dieu avec nous ». Dans la culture juive, cette généralement la mère qui donne le nom de l'enfant. Genèse 29, verset 32, 1 Samuel 1, verset 20. Cette prophétie annonce également la naissance d'un autre Emmanuel qui aura lieu dans un avenir éloigné. Mais qui est-il? Dans le chapitre suivant, on apprend que la Palestine lui appartient et qu'il fera échouer les plans des ennemis du peuple de Dieu. Ici, il s'agit des Assyriens. Je lis le passage. Voici que le Seigneur fera monter sur eux les grandes eaux du puissant fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Oui, il sortira partout de son lit, et il débordera au-dessus de tous les berges. Il pénétrera en Juda, l'inondera et le submergera. Il lui montera jusqu'au cou, et le déploiement de ses flots couvrira toute l'étendue de ton pays. Emmanuel, sonnez l'alarme, ô peuple, mais vous serez défaits. Prêtez l'oreille, vous, les pays lointains, soyez prêts au combat. Mais vous serez défaits. Soyez prêts au combat, mais vous serez défaits. Élaborez toute une stratégie, elle sera anéantie. Concertez-vous sur votre plan, il sera sans effet, car Dieu est avec nous. Ésaïe 8, les versets 7 à 10. Une jeune fille enfante un fils. Elle l'appelle Dieu avec nous. Mais ce n'est pas tout, car plus loin, dans le livre d'Ésaïe, un personnage apparaît possédant toutes les caractéristiques d'Emmanuel. Je lis le passage. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Emmanuel, Dieu avec nous, est un enfant et un fils qui possède les attributs de la divinité. Alors que le royaume de Juda traverse une crise grave, cette prophétie donnée au roi Ahaz a pour but de redonner espoir et d'encourager les Israélites pieux qui ont placé leur confiance et leur espérance en l'Éternel leur Dieu. Encore plus loin, dans le livre d'Ésaïe, nous retrouvons à nouveau Emmanuel comme le descendant d'Isaïe, le père du grand roi David, à ne pas confondre avec Ésaïe, le prophète. Je lis le passage. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Ésaïe 11, les versets 1 à 3. Emmanuel, l'enfant qui est né, le Fils qui est donné et le Messie sont un seul et même personnage. Il s'agit de Jésus qui est venu et qui reviendra un jour pour triompher des ennemis d'Israël et instaurer son règne. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'est jamais appelé Emmanuel. Mais pendant son séjour sur terre, il était Dieu avec nous. Jésus est également appelé le Christ. Cependant, ce n'est pas un nom, mais un titre qui vient du grec « Christos » et qui est la traduction de l'hébreu « Messie ». Il ne fait aucun doute que la prophétie de la naissance de Emmanuel annonce la venue du Messie. Pour Ésaïe, cette réalité encore lointaine est bien présente dans son intuition prophétique. Mais dans quelle mesure réalise-t-il la portée de ce qu'il prédit ? Ésaïe sait bien sûr qu'Isaac, le fils de la promesse fait par l'Éternel à Abraham, était né d'une femme, Sarah, qui avait dépassé depuis longtemps l'âge d'avoir des enfants. En conséquence, il est probable que le prophète comprend très bien qu'il attribue une origine miraculeuse à Emmanuel, qui l'appelle d'ailleurs Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Dans son évangile, Matthieu affirme sans équivoque possible que la naissance de Jésus est d'une part l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe et, d'autre part, que Marie n'a pas eu de relation sexuelle. En effet, il dit qu'elle est « parthénos », qui en grec ne peut signifier que « vierge ». Je lis ce passage. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, les versets 18 à 23. Ahaz, roi de Juda, a refusé la délivrance que lui offre l'Éternel. Mais ce n'est pas ce qui va empêcher Dieu de réaliser, en temps voulu, le plan du salut de l'humanité par la naissance d'Emmanuel. Seulement, il viendra une première fois sous les traits de Jésus, non pour délivrer Israël de ses ennemis, mais comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Pour offrir la vie éternelle à l'ensemble de la race humaine. Dans le futur par rapport à nous, Jésus reviendra une seconde fois, mais ce sera alors pour secourir Israël et établir le millénium, son règne de 1000 ans, sur la terre. Je continue de lire le texte du chapitre 7. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. Ésaïe 7, les versets 15 et 16. Ésaïe a fait cette prophétie en 735 avant Jésus-Christ. Ici, il parle évidemment de celle qui s'accomplira dans le futur immédiat. Ce jeune Emmanuel, contemporain du prophète, va naître alors que le royaume de Juda traverse une période très difficile. La crème et le miel ne constitue pas du tout un menu de choix, mais la disette. En effet, ces aliments signifient qu'il n'y a aucune culture parce que le pays est ravagé. Tout ce qui reste, ce sont les produits naturels comme le miel et ce qu'on peut tirer des animaux qui n'ont pas péri. Cette description correspond à la première dévastation que va subir le pays de Juda envahi par les Syriens et les Israéliens des 10 tribus du Nord. Quand le petit Emmanuel, contemporain d'Ésaïe, commencera à prendre conscience du bien et du mal, il y aura environ 2 ans et nous serons en 732 avant Jésus-Christ. C'est l'année où le roi assyrien Tiglath-Pileser III détruit Damas, exécute Retsin, son roi, et a annexé la Syrie et une partie du royaume israélite des 10 tribus du Nord. Quant à Pekah, le roi usurpateur des 10 tribus du Nord, il est assassiné dans un coup d'État. Je continue le texte du chapitre 7. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il n'y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Ésaïe 7, verset 17. Ça fait maintenant presque 2 siècles que s'est faite la scission d'Israël en 2 royaumes. 1 Rois 12, 19-20, 931 avant Jésus-Christ. L'appel à l'aide que le roi Ahaz a lancé aux Assyriens ne lui apportera qu'un soulagement très éphémère puisque cette stratégie va se retourner contre lui et son successeur Ézéchias pour les mordre cruellement. Dans un premier temps, les Israélites devront payer un lourd tribut aux Assyriens pour ensuite subir leur invasion. Je lis le passage dans le second livre des Chroniques. Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, vint attaquer Ahaz et le traita en adversaire. Ahaz avait pris une partie des biens du temple de l'Éternel, du palais royal et des maisons de ses grands pour faire des présents au roi d'Assyrie. Cela ne lui fut d'aucune aide. Même dans sa situation désespérée, le roi Ahaz persista dans sa révolte contre l'Éternel. Deux Chroniques 28, les versets 20 à 22. Comparez Ésaïe 8, les versets 7 et 8, et 36, verset 1er. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Il adviendra, en ce jour-là, que l'Éternel appellera, par un coup de sifflet, les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les ravins abrupts et dans les fentes des rochers, dans tous les fourrés broussailleux et tous les pâturages. Ésaïe 7, les versets 18 et 19. Tous les appels à l'aide lancés par Juda aux nations étrangères vont devenir autant de calamités parce que le roi Ahaz est sous la malédiction de Dieu. Le prophète Jérémie écrit « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force quand il détourne son cœur de l'Éternel. » Jérémie 17, verset 5. Les Égyptiens dont parle Ésaïe, sont comparés à une nuée de mouches alors que les Assyriens plus puissants à un essaim d'abeilles. Mais les uns et les autres obéissent à l'Éternel qui, dans sa souveraineté, a décidé de les utiliser pour punir son peuple parce qu'il s'est détourné de lui. En 701, avant Jésus-Christ, alors que les Assyriens encerclent Jérusalem et sont sur le point de la prendre, l'Éternel est miraculeusement intervenu afin d'épargner la ville. Parce que, n'étant pas encore mûr pour le jugement, l'heure de sa destruction n'avait pas encore sonné. C'est en 587 avant Jésus-Christ que Jérusalem sera conquise et brûlée par les Babyloniens. Je continue le texte. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les poils du corps, et il vous coupera aussi la barbe. Ésaïe 7, verset 20. Changement de scène. Le pays de Juda est maintenant comparé à un homme, et le roi d'Assyrie à un rasoir qui lui dénude la tête. Se raser les poils ou les cheveux était un signe de deuil ou de déshonneur. Ésaïe 15, verset 2. De Samuel 10, les versets 4 et 5, Job 1, verset 20, Jérémie 47, verset 5, 48, verset 37, Ézéchiel 7, 18, Amos 8, 10 et Michée, chapitre 1, verset 16. L'expression « pris à gage » est une allusion ironique de l'action d'Ahaz, tout comme ce roi ignoble a utilisé le trésor du temple qui appartient à l'Éternel pour louer les services de la Syrie, le Seigneur loue les services de la Syrie pour le punir, lui et son peuple. Je continue. Il adviendra en ce jour-là qu'en guise de bétail, une personne élèvera une génisse et deux brebis. Alors la production de lait sera si abondante que l'on se nourrira de crème. Oui, les survivants du pays mangeront tous de la crème et du miel. Ésaïe 7, les versets 21 et 22. En ce jour-là, dénote le temps du châtiment pour le royaume de Juda. Cette expression fait souvent référence au jour de l'Éternel, une longue période qui commence par une série de jugements épouvantables appelés la grande tribulation, et qui est suivie par le retour du Messie qui instaure son règne de 1000 ans, sur terre appelé le millénium. Ésaïe 4, 2. Mais parfois, comme ici, en ce jour-là annonce un châtiment qui va se produire à court ou moyen terme. Ces jugements, relativement proches, présagent celui qui aura lieu à la fin de l'ère dans laquelle nous sommes actuellement et qui s'appelle le temps de l'Église, ou temps de la grâce, ou encore la Nouvelle Alliance. Une fois que Juda aura été châtié, les quelques rescapés restés au pays ne cultiveront plus la terre, mais reviendront à l'élevage et se nourriront donc des produits de leur bétail. Ils seront si peu nombreux que malgré un tout petit cheptel, ils auront du lait en abondance. Le miel aussi coulera à flot parce que les champs abandonnés seront couverts de fleurs sauvages, ce qui permet aux abeilles de se multiplier et d'établir de nombreuses colonies. Cette abondance relative est un signe de la grâce de Dieu qui permet à un petit reste de son peuple de survivre malgré le châtiment couru. Cette dévastation sera le premier accomplissement, celui à court terme, de la prophétie que Ésaïe a donnée au roi Ahaz concernant Emmanuel, dont il a dit « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. » Ésaïe 7, verset 15. Ce petit garçon est né et a passé les deux premières années de sa vie dans un pays ravagé par les armées syriennes et israélites du royaume du Nord. Mais ce premier malheur sera suivi d'un désastre plus grand encore lorsque les Assyriens envahiront Juda. Je continue le texte. Il adviendra encore, en ce jour-là, que tout endroit planté de 1000 ceps de vigne valant 1000 pièces d'argent sera abandonné aux ronces et aux épines. Ésaïe 7, verset 23. Avant les invasions, chaque cep de vigne vaut un sicle, c'est-à-dire une pièce d'argent, un prix très élevé. Mais il faut savoir qu'en Orient, les ceps sont presque des arbres qui peuvent porter une énorme quantité de grappes. Les productions agricoles seront remplacées par les ronces et les épines, ce que le prophète Ésaïe mentionne encore deux fois dans les versets suivants. Cette calamité, partout présente, prouve la sévérité du désastre et de la malédiction qui se sont abattus sur Juda. Je continue. On y pénétrera armé d'arcs et de flèches, car le pays entier ce sera que ronces et épines. Ésaïe 7, verset 24. Comme il y aura peu d'habitants et plus de culture, les gens qui s'aventurent hors de leur village doivent s'armer pour se défendre contre les bêtes sauvages qui se sont multipliées et qui ont envahi toute la campagne, maintenant en friche. La chasse sera aussi un moyen de subsistance. Après la destruction du royaume israélite des 10 tribus du Nord, les lions firent leur apparition un peu de partout. En effet, dans le second livre des rois, on lit « Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kuta, de Hava, de Hamath et de Sepharvaïm et les obligea de s'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ces gens n'adoraient pas l'Éternel qui envoya contre eux des lions qu'ils tuèrent plusieurs d'entre eux. » Deux rois 17, 24 et 25. Je finis maintenant de lire le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. On ne passera plus sur les coteaux fertiles qu'on sarclait à la pioche par peur des ronces et des épines. Les bovins y pèteront et les moutons en fouleront le sol. Ésaïe 7, verset 25. Ésaïe a décrit les conséquences de deux jugements successifs. D'une part, l'invasion par les Syriens et les Israélites du Nord, et d'autre part, et bien pire, par les Assyriens. Selon Ésaïe, Dieu utilise ses puissances terrestres pour punir son peuple rebelle. Mais ensuite, et au moment voulu, elles seront elles-mêmes sévèrement jugées et même anéanties. Plus loin dans le livre, chapitre 39, l'horizon du prophète s'élargit, et Babylone, qui est pour l'instant inclus dans l'empire assyrien, en sortira et deviendra en 587 avant Jésus-Christ le grand exécuteur du jugement divin contre Juda. Comme je l'ai dit, Dieu est miséricordieux et sa patience est quasi infinie. Mais quand elle arrive à sa fin, le jugement tombe et il est terrible, aussi bien au niveau des nations qu'à titre individuel, et aucune échappatoire n'est possible. C'est pourquoi, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 7.